essentielle.
Michel, je pense tout de même qu'il faut te présenter un tout petit peu. Michel, il a fait la démarche de venir vivre en France vers l'âge de 20 ans. Il a quitté la Roumanie définitivement et il a adopté la France. Et il a fait ses études en France, il a fait l'Institut d'études politiques, Sciences Po. Et puis il a eu toute sa carrière en France et il a fait ensuite un cursus de théologie à Saint-Serge. C'est ça, oui. Et depuis, il a écrit un certain nombre de livres de théologie, et j'allais dire de théologie pratique, incarnée. Son premier livre, c'est un livre sur la souffrance, que je vous recommande, et le regard orthodoxe sur la souffrance. Tu vas m'arrêter si j'ai des bêtises.
Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très flatteur.
Il se trouve que je l'ai lu et que je l'ai apprécié. Ton second livre, je l'ai aussi beaucoup apprécié, et c'était au départ pour parler de ce livre-là, j'aurais voulu que tu viennes, qui est sur le regard orthodoxe sur la mort. Qu'est-ce que les textes, la mystique orthodoxe, la tradition, le rituel, etc. nous dit sur la mort, comment vivre la mort et l'après-mort. Et ça, c'est aussi un livre, à mon avis, essentiel, paru chez L'Harmattan il y a 2 ans. Et grâce à ce livre, j'ai rencontré Michel et j'ai été amenée à travailler avec lui sur son 3e livre qui vient de paraître chez L'Harmattan encore, qui est une conversation, un échange épistolaire entre Michel, orthodoxe, et une jeune religieuse pianiste de très grand talent, de pianiste professionnelle, musicienne et théologienne, et donc religieuse, qui est italienne et qui est catholique. Et ils abordent tous les thèmes essentiels de la foi, de la vie chrétienne, de la façon de vivre, et en tout ça dans un rapport d'amitié qui est magnifique. Bon, par ailleurs, ce soir, Michel va nous parler de Nikolai Steinhardt parce que c'est quelqu'un qu'il a très très bien connu. C'était un ami de son père et il a été amené à en traduire toutes ses homélies en français, du roumain au français, et puis ce journal de la félicité qui est le livre de toute son aventure humaine et spirituelle au goulag et qui l'a amené à devenir chrétien, moine et prédicateur.
Ça, oui.
Et malheureusement, ces œuvres sont épuisées, mais heureusement, elles sont en réédition.
Alors, elles sont épuisées, voilà. Et pas tout à fait épuisées, c'est-à-dire pour des gens comme vous qui avez fait l'effort. Je vais vous dire le secret où on peut en trouver encore quelques exemplaires. Donc, dès que vous rentrez, vous envoyez un email, vous allez trouver ça sur Internet. Très simple, Monastère de la Transfiguration.
Ah, oui.
Monastère de la Transfiguration. Vous pouvez écrire ça de ma part, mais même si les noms vont vous envoyer, vous demander aussi bien le journal de la félicité, ils en avaient encore une vingtaine d'exemplaires, je ne plaisante pas. Et puis un peu plus, Donne et tu recevras, qui est le livre aussi que j'ai traduit d'Homélie du Père Steinhardt, celui qui a failli me tuer, que monsieur il a là-bas, que j'ai pas pour toi.
Merci cher Michel de ton intervention ce soir, merci d'être venu.
Je l'ai promis et qu'on ne peut pas. Bon, elle a oublié de vous dire que je suis aussi depuis un an diacre.
Ah oui, pardon.
Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'en tant que diacre, je viens de promettre à un père ici présent que je reviendrai vous voir. Donc je ne peux pas ne pas tenir parole. Donc je vais revenir et je vous parlerai à ce moment-là peut-être un peu plus de moi, parce que ce soir je vais vous parler de quelqu'un d'exceptionnel et bon, on ne peut pas faire des parallèles. Mais effectivement, je suis arrivé en France il y a 40 ans, je me suis enfui d'une Roumanie qui a heureusement et Dieu merci changé depuis. Permettez que je m'assieds. Donc voilà, nous allons parler ce soir d'un destin exceptionnel, celui de Nikolai Steinhardt. Le nom n'est pas roumain, n'est pas de consonance roumaine. Quelqu'un a attiré mon attention là-dessus et effectivement, il est roumain, profondément roumain, mais d'une famille juive. Donc, d'où la consonance du nom, pas du prénom. Le prénom, c'est Nikolai. Bon, ça va en roumain, ça va en français. Alors, je pensais à comment introduire cette histoire, je commencerai par dire que chacun d'entre nous, d'entre vous, a, me semble-t-il, connu dans sa vie quelques instants de chance, ou peut-être de grâce, diraient certains présents ici. Pour ma part, personnellement, la grande chance de ma vie a été d'avoir rencontré quelques êtres exceptionnels. Je vous rassure tout de suite, je n'en ai absolument aucun mérite. Ils étaient tous des amis très proches de mon père. Comme il est plus de ce monde malheureusement, il me revient de vous parler de ces quelques personnalités. Et ce soir, parmi eux, peut-être le plus brillant, le plus significatif, le plus, plus bouleversant, c'est Nicolas Steinhardt. Mais vous voyez, cette chance qu'on a, cette chance que j'ai eue, engage à un devoir, et c'est un devoir de partage ou plutôt de restitution. Et c'est donc au nom de ce devoir que je me trouve ce soir devant vous pour vous parler du destin exceptionnel de Nicolas Steinhardt. Alors, qui est ce Nicolas Steinhardt? Je devais dire en quelques mots, juste en synthèse, ça devrait être la conclusion, mais je préfère dire tout de suite qu'il était raffiné, d'une immense culture, de la plus prodigieuse des mémoires, causeur brillant, avec un humour qui ne lui fit jamais défaut, même dans les pires tourments des geôles communistes. Je dirais que Steinhardt était avant tout, et avant même son baptême, et avant même sa rencontre avec le Christ, un chevalier de l'esprit. Son destin exceptionnel amena l'écrivain esthète aux portes de l'enfer, et je vais vous raconter comment. Il en sortit, pas défiguré, mais transfiguré, ayant fait de la souffrance la chance de sa vie, sa félicité. D'où le titre, le journal de la félicité. Et ainsi, après un long voyage, au bout de la nuit, le chevalier de l'esprit devint un chevalier du Christ. Je vais modestement essayer de vous raconter cela en peu de temps. Alors, qui est ce Nicolas Steinhardt dont le pape Jean-Paul II disait lors de son voyage en Roumanie, premier voyage d'un pape catholique dans un pays orthodoxe après la rupture malheureuse de 1054, donc en 2002, il arrive à Bucarest, voilà ce qu'il dit à l'aéroport. Alors pourquoi il dit ça? Pardon, je fais une parenthèse, parce qu'avant de venir en Roumanie, il a demandé à ses conseillers quelque chose sur un grand théologien, un spirituel roumain. Alors on lui a donné des trucs du XVIIe siècle. Il dit non, mais ce n'est pas un truc contemporain. On lui a donné le journal de la félicité, pas cette édition, la première édition. Elle était moins bonne que celle-ci, parce que celle-ci, c'est moitié les bons. Mais alors, elle était quand même très bien traduite, j'ai gardé la traduction. Bon, il en a été ébloui. Tout pape qu'il a été, il en a été ébloui. Et voilà ce qu'il a dit à l'aéroport. Donc il a lu ça. Il ne connaissait rien. Il connaissait sur la Roumanie un peu, très cultivé. Il venait de Pologne. Mais sur Stein, aucune. Il avait lu ça. Et il a dit, si vous avez eu parmi vous une personnalité comme le moine Nicolas Steinhardt, vous n'avez pas besoin de moi. Je me demande pourquoi vous m'avez invité, car il vous a tout dit. Moi, je n'ai pas trouvé de meilleur et de plus bel hommage que celui de Jean-Paul II. Alors, qui est ce Nicolas Steinhardt qui n'aurait jamais imaginé un tel hommage? Il y a trois moments décisifs dans sa vie exceptionnelle, trois moments décisifs ou trois tournants. Trois tournants qui déclenchent trois métamorphoses. En fait, ces trois vies ont une vie, mais vous allez voir, entre ces trois vies, il y a un profond et éblouissant des pianistes qui aura, dirait, legato, continuum. Il y a une continuité profonde. Alors, j'ai appelé ces trois moments décisifs, un, sa rencontre avec le diable, deux, sa rencontre avec le Christ, trois, et enfin, sa rencontre avec la grâce. Commençons par le commencement, sa rencontre avec le diable. Pardonnez-moi, mais on ne peut pas comprendre Steinhardt si l'on ne s'imagine pas un tout petit peu ce qu'était la Roumanie d'entre les deux guerres mondiales. C'était un pays à la fois ancien, très ancien et très nouveau. Pourquoi très ancien? Parce que la Roumanie en soi, c'est déjà un peu un miracle. La langue roumaine, c'est un miracle. C'est une langue latine au milieu d'un océan slave, pour faire très court, même si les Hongrois sont hongro-finiques et pas slaves. Tous les autres, c'est énorme. Ensuite, c'est un pays qui a survécu, on se demande comment. Vous prenez les trois empires qui l'entourent depuis le 10e siècle et jusqu'au 19e, 20e, l'Empire ottoman au sud, l'Empire austro-hongrois à l'ouest et l'Empire russe à l'est. Vous tirez trois traits, point d'intersection, c'est pile là où vos parents sont nés. Hein. Voilà, donc c'est pile au milieu de la Roumanie. Donc un pays ballotté entre trois empires qui se donnaient rendez-vous et champ de bataille en Roumanie. Le grand miracle, c'est avoir gardé une identité et une langue qui n'a rien à voir ni avec les Turcs, ni avec les Russes, ni avec les Autrichiens, ni avec les Hongrois, ni avec personne. C'est une langue latine. Les Français, Napoléon III, bon, c'est une période romantique, disait notre petite sœur latine, etc., etc. Donc, il y a un énorme complexe de supériorité des Roumains. Nous ne sommes pas comme les autres. Non, nous sommes des Roumains, nous parlons la langue de Dante, nous parlons bon, très bien. Et en même temps, un immense complexe d'infériorité. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple ancien, puis c'est très nouveau, l'État. L'État national roumain, ça date de 1918, et ça a été au forceps avec Césarienne, au traité de Trianon. Il a fallu que la reine Maria, je vous raconterai ça une autre fois, drague pratiquement Clémenceau pour arracher l'unité et l'indépendance de la Roumanie. Elle a bien fait, elle était très belle, et je pense qu'elle était irrésistible. Bon, bref. Voilà la Roumanie à partir de 1918, c'est un État unitaire, c'est quand même un pays moyen hein, en termes de taille, de population, et donc elle connaît une effervescence littéraire, culturelle qui va en espace de quelques années éblouir le monde entier. Je vais citer quelques noms qui ne sont pas étrangers aux Français, Émile Cioran en philosophie, Ionesco pour ce qui est du théâtre, Mircea Eliade pour ce qui est de la philosophie, de l'histoire des religions, Enescu en musique, Brâncuși dans la sculpture, bon, etc., etc. Tout ça en espace de 20 ou 30 ans de relative indépendance et de relative effervescence culturelle. Voilà, dans cette période-là, apparaît et naît Nicolae Steinhardt le 12 juillet 1912 à Bucarest dans une famille juive. Son père Oscar, c'est un brillant scientifique. Sa mère Antoinette, juive également, elle est, je le dis toujours, ça m'amuse beaucoup, une cousine lointaine de Sigmund Freud. Pourquoi ça m'amuse de dire cela? Parce que je ne connais pas quelqu'un plus rétif et plus dégoûté par la psychanalyse et par Freud que Steinhardt. Il disait, je le cite, ne notez pas ça, c'est une philosophie de bidet. Bon, mais il était apparenté, il était dans une famille. Donc, les parents ne sont pas religieux d'aucun côté, ils sont juifs, mais ils ne sont pas très liés à la synagogue. Bon, alors, c'est plutôt une famille de bourgeois moyens roumains. Son père est tout de même héros de la Première Guerre mondiale. Ça va l'aider à un moment donné de sa vie. Bon, il fait des études au lycée prestigieux de Bucarest, Spirou Haret. Mais tout de même, un petit détail qui passe inaperçu. Il est le seul élève de confession mosaïque, judaïque, qui suit les cours de catéchèse orthodoxe, qui était à l'époque la religion, ça s'enseignait dans tous les lycées, collèges d'État, ça faisait partie du cursus scolaire obligatoire, mais ce n'était pas obligatoire pour les enfants qui n'étaient pas de la confession chrétienne orthodoxe. Mais lui, il a choisi, ça l'intéressait, bon, voilà. C'est un détail qui aura beaucoup de sens plus tard. Il fait une licence et puis un doctorat en droit constitutionnel, mais il ne pratique pas ni le barreau, ni le métier d'avocat. Il devient critique littéraire et très vite, il commence à collaborer à la prestigieuse revue des fondations royales. C'est un peu l'équivalent de la NRF française. Il publie à 27 ans un essai sur une conception catholique du judaïsme directement en français à Paris. Et puis un deuxième livre tout de suite, Illusion et réalité juive à Paris aussi. Faut dire qu'il parle un français achevé, mais aussi parfaitement bien l'anglais et l'allemand. C'est l'éducation de la maison. Ah, Ça étonne aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde parlait le français avec arrêt. Je vais te donner un petit détail. On publiait en Roumanie à l'époque davantage de livres en français qu'en Belgique. C'est quand même quelque chose, c'est bon. Donc, c'est une période où le jeune Steinhardt, il essaye de se rapprocher du judaïsme et de la synagogue avec beaucoup de sérieux. Il apprend ainsi l'hébreu, il peut lire au bout d'un an l'Ancien Testament, la Torah, tout au moins, dans le texte, et il dit avec un petit regret, mais avec un dictionnaire. Pour moi qui ai fait un peu d'hébreu à Saint-Serge, je peux vous dire que être capable de lire dans le texte, même avec un dictionnaire, de l'hébreu, de la Torah, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais son intégration dans la communauté juive et dans la synagogue est un échec. Pourquoi est-ce que c'est un échec? Il est très discret dans le journal de la Félicité, il n'en parlait pas beaucoup. C'est un échec, je pense, personnellement, parce qu'il est très rétif à une certaine rigidité des mœurs, des traditions, à une certaine rigidité dans les traditions juives. On manque de questionnement et ça gêne un peu le brillant agnostique, esthète. Mais moi, je pense aussi qu'il est, à cette époque-là, à la recherche d'un sens ou peut-être d'un destin que la synagogue n'a pas su lui donner. Arrive une époque dure, 1939-1945, la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie est alliée de l'Allemagne, elle est de mauvais côté, mais elle ne le sait pas encore. Et puis, il y a des persécutions contre la population israélite, contre les juifs en Roumanie, bien sûr, parce qu'il y a des soldats allemands, parce qu'il y a même beaucoup, même si la Roumanie est un pays allié, mais pas occupé, ils ne se gênaient pas de déporter et de persécuter la population juive, et il y en avait en Roumanie, et ils l'ont fait, ils ne sont pas gênés de le faire. Avec plus ou moins une complicité des autorités roumaines, c'est une autre histoire. Steinhardt échappe et échappe belle. Pourquoi? Eh bien parce que son père était un héros de la Première Guerre mondiale. Et donc, cette décoration-là l'a protégé. Les choses se gâtent un peu plus tard. En 1945, l'arrivée de l'armée rouge. En 1947, installation brutale du communisme en Roumanie. Et là, en l'espace de quelques semaines, le brillant intellectuel, celui qui avait publié, qui était une star, mais un peu quand même, une vedette de la vie intellectuelle roumaine, devient un paria. Arrestation massive. La Roumanie, je vous raconterai ça une autre fois, devient, en l'espace de quelques mois, un vaste camp de concentration. Et malheureusement, elle resta ainsi pendant une quarantaine d'années. Quelques esprits brillants ont eu la chance d'être restés de l'autre côté du rideau de fer. Je pense à Émile Cioran, à Eugène Ionesco, à Mircea Eliade. Ils joueront un rôle important dans la vie de Steinhardt, bien malgré eux. Arrive 1958, une deuxième vague d'arrestations massives. Alors, si les arrestations, là c'est le professeur d'histoire qui vous parle, si les arrestations de 47, 48, 49 avaient un sens qui était celui de la prise du pouvoir, il fallait éliminer l'ancienne classe dominante, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, il fallait arrêter tout le monde, les assassiner, bon très bien, ça avait un sens. Mais en 1956, ça n'a plus aucun sens. Ils ont tout le pouvoir, plus personne ne bouge en Roumanie, il n'y a pas une mouche qui sort, pas une mouche qui rentre, c'est un pays qui est un vaste camp de concentration. Cette deuxième vague n'a qu'un seul sens, qui est celui diabolique et démoniaque, c'est de terroriser et de faire peur. Il n'y a plus de lutte pour le pouvoir, c'est le sang pour le sang, c'est la période de la terreur de Robespierre, etc. Il n'y a plus la patrie en danger, les Prussiens, il n'y a plus personne. Mais ça, c'est les arrestations de 1956-58, surtout, c'est le paroxysme du communisme roumain. Tous les amis de Steinhardt sont arrêtés. Tous, sauf lui. Il passe des mois d'angoisse. Il voit tous ses amis qui disparaissent comme ça, l'un après l'autre. Pas lui. Il n'est pas convoqué, il n'est pas arrêté. Et puis, ça ne s'invente pas, le 30 décembre 1959, il est convoqué à la sinistre Securitate et la police politique, l'équivalent du KGB, l'équivalent roumain du KGB ou du Gestapo nazi, si vous voulez. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on va voir le diable? On lui propose un pacte. On lui dit, voilà, bon, tes amis, c'est des fascistes, c'est des gens qui ont conspiré contre le régime, qui ont parlé, qui ont écrit, c'est bon. Mais toi, t'es juif, tu peux pas être avec les fascistes, c'est pas possible. Hein, bon, c'est tes amis, mais c'est une erreur, quoi. Donc, on lui propose quoi? Bon, on lui propose d'être le témoin de l'accusation, dans le procès qui allait s'ouvrir avec ces intellectuels. Il n'y avait pas deux, trois, il y en avait quand même une quarantaine. D'être le témoin de l'accusation, vous allez me dire, est-ce qu'il fallait dénoncer et dire non, 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 non. En fait, ce qu'on lui propose, c'est des choses qui étaient vraies. C'est en ça que le diable est très pervers. On lui propose de confirmer ce que la police savait parfaitement bien. Les lieux de rendez-vous, les livres qu'ils avaient lus, le fait qu'ils avaient traduit, mon Dieu, quel crime, Platon, Hegel et Kierkegaard, qu'ils avaient discuté de la République de Platon par rapport à l'utopie communiste, enfin, voilà, c'est des crimes contre l'État et la sûreté de l'État, tel jour, à tel endroit. Donc finalement, on ne lui demande pas quelque chose de irréalisable. Non, on lui demande juste ce que... Mais alors vous allez me dire, pourquoi on lui demande ça? On lui demande ça parce qu'ils ont besoin d'un Judas. C'est pas, ils avaient tout ce qu'il fallait pour condamner ces gens-là. Hein. Mais ils avaient besoin que quelqu'un d'entre eux dise ça, et pas eux. Et ça, il le comprend, mais il dit pas oui, il dit pas non, il dit rien, il est bon, comme on peut l'être. Et il rentre chez lui, on lui donne 3 jours de réflexion. Nous sommes le 31 décembre 1959, être convoqué par la police politique, sinistre KGB de l'époque, le 31 décembre, hein, veille du Nouvel An, on lui donne 3 jours, et on lui dit, parle-en avec ton papa, demande-lui ce qu'il en pense, hein, parce que tu sais, si tu n'acceptes pas, ça va se compliquer, il est vieux, peut-être tu le reverras plus, genre de pression, mais gentil pour l'instant. Et là, permettez-moi de vous lire la conversation avec son père qui est inoubliable, son père qui est un personnage fantastique du journal de la Félicité, qui va, vous allez voir, comment il va l'encourager. Et pourquoi donc, espèce de malheureux, es-tu rentré à la maison? Comment ça? Tu leur as donné l'impression d'hésiter, l'idée que tu pourras trahir tes amis. Enfin, t'es idiot quoi, en affaire, quand on dit je vais y réfléchir, c'est qu'on l'est d'accord. Pour rien au monde, tu ne dois accepter d'être le témoin de l'accusation. C'est vrai, dit mon père, tu vas avoir des jours très durs. Mais tu auras des nuits paisibles. Alors que si tu acceptes d'être témoin de l'accusation, tu auras, il est vrai, des jours plus tranquilles, mais tes nuits seront épouvantables. Tu ne pourras plus fermer l'œil, tu ne vivras plus que de calmants, de somnifères abrutis et somnolents toute la journée, mais torturé d'insomnie la nuit, tu vas te ronger le sang comme un fou. Tâche plutôt de rester dans le droit chemin. Allez, cesse d'hésiter. Cela me fait mal au cœur, mais il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, même si tu acceptais maintenant d'être le témoin de l'accusation, il ne faut même pas se leurrer, dans 6 mois, ils viendront t'embarquer quand même. C'est sûr et certain. Ainsi donc, prépare tes affaires pour lundi. Prends plutôt des affaires usagées. Parenthèse de Steinhardt. Là, le pauvre, il a eu cruellement tort. Et pendant les 3 jours qui nous restent, je ne veux plus t'entendre une seule fois prononcer le mot procès, securitate et prison. Je veux que nous passions 3 journées agréables et sereines. Dernier passage, 3 jours après. Une fois prêt, je dis au revoir à mon père. Je suis très accablé. Papa, en pyjama, petit rondouillard, de bonne humeur et tout sourire, il me prodigue ses derniers conseils comme un entraîneur avant un match. À toute allure, comme celui qui vous accompagne au train et dit tout ce qu'il a à vous dire d'une seule traite, alors qu'il est resté muet à la porte du wagon jusqu'à la dernière seconde. Ils t'ont dit comme ça de ne pas me laisser mourir comme un chien. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne mourrai pas du tout. Je t'attendrai. Et surtout, fais bien attention, ne va pas me faire honte. Ne joue pas au youpin trouillard et va pas chier dans ton froc. Il m'embrasse bien fort, me conduit jusqu'à la porte, se met à garde à vous et me fait un salut militaire. Vas-y, me dit-il. Il est allé et suit l'interrogatoire dans lequel il nie tout en bloc. Même des choses avaient tout été vrai. on lui dit, est-ce que tel jour vous étiez dans telle maison avec un tel et tel pour discuter de Platon? Il ne me souvient pas. Est-ce que un tel, je ne sais pas. Est-ce que, je ne me souviens plus de rien. Mais vous connaissez un tel, oui, je le connais. Quand vous l'avez vu la dernière, je ne me souviens pas. Donc il nie tout en bloc. L'interrogatoire est diabolique, il est raconté ici, vous le retrouvez. Mais je vous donne un petit extrait pour voir en quoi il est diabolique. Question. Es-tu allé dans la maison de Giorgio Florian? Steinhardt répond oui. Mais l'enquêteur y note. Oui, je reconnais être dans la maison conspirative où j'ai eu des conversations illégales avec le fasciste Giorgio Florian. Donc évidemment, il signe pas. Mais vous allez me dire, oh, c'est typiquement, c'est nazi, c'est communiste, ça n'existe plus, ça n'a jamais existé avant, vous croyez? J'ai relu, il n'y a pas très longtemps, les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Et c'était l'Église qui faisait ce procès. Elle dit, avec honnêteté, candeur, j'ai entendu des voix. C'est pas ça ce qu'on a noté. On a noté, j'ai entendu des démons. Ça se passe de commentaires. Il comprend parfaitement bien le caractère diabolique et pervers de l'interrogatoire et il dira plus tard, avec le diable, tu ne signes rien, même pas une déclaration qui affirme que Dieu existe. Rien. Il refuse tout en bloc, il est arrêté et inculpé pour complot contre l'ordre social. Il va être torturé avec bestialité. Alors vous allez me dire, bah, une fois que bon, il est inculpé, il y aura un procès, vous pouvez le torturer. Parce qu'on lui demande d'autres noms. Très bien, tiens, mais est-ce qu'il y avait d'autres? Il donne rien. Il est torturé pendant 3 mois avec une bestialité. Il en parle, mais en filigrane. Je sais des détails, donc pas ce soir, parce que d'autres co-détenus ont écrit, et ont témoigné ce qu'eux, ils ont subi et ce que Steinhardt a subi. Et à un moment donné, il se trouve dans l'antichambre de l'interrogatoire, de la torture. Il est à bout, il n'en peut plus. Et il dit, je vais tout leur donner. Physiquement, il est... Et puis, en attendant qu'on le fasse entrer et qu'on le torture une fois de plus, il lui vient à l'esprit une prière invraisemblable. Lui, pas l'athée, mais l'agnostique, le type qui était pauvre, vient à l'esprit cette prière qui est la suivante. Jésus, je ne sais pas si tu existes, je ne te connais pas tant que ça, mais toi aussi tu as été craché, toi aussi tu as été battu, toi aussi tu as été humilié, Jésus, je suis un juif comme toi, viens en mon aide parce que ce soir je vais tout leur donner, j'en peux plus. Et à partir de ce moment-là, il ne ressent plus aucune douleur, ni physique, ni psychique. Les tortures vont continuer encore quelques semaines, il passe à travers, il ne ressent plus rien. C'est sa première victoire contre le diable. Suit le procès, qui est une mascarade bien sûr, bon, c'était joué d'avance. Je dois dire seulement ceci, qu'au procès, il a été d'une dignité remarquable. Ils ont eu le droit, tout ce lot d'intellectuels, à 1 minute à la fin de dire quelque chose, le dernier mot, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont tous été, on ne peut pas dire lamentable, mais ils ont tous été les pauvres. Bon, ils ont demandé l'indulgence du jury, une réduction de peine. Bon, Paléologue, par exemple, a dit avec beaucoup d'humour que si on lui réduit la peine, il s'engage à lire Marx et à faire des synthèses du Capital matin, midi et soir. Enfin, ils ont tous dit quelque chose pour... Bon, ils ont été quand même, les peines allaient de 15 ans, c'est ce que Steinhardt a pris, jusqu'à 25 ans de travaux forcés. Le seul qui a été d'une dignité remarquable, qui n'a fait aucune concession, c'est Steinhardt, ils le disent tous après dans leurs témoignages, il n'a dit qu'une seule phrase, « Je suis fier de faire partie de ce groupe ». La prison, pour lui, ça n'a pas été très facile, il était cardiaque, il avait déjà une tuberculose intestinale, maintenant il ne pèse plus que 40 kilos. On le sait, lui il ne le dira pas, mais on le sait, d'autres témoignages, il mangeait la paille de ses matelas, mais souvent il cédait sa portion de nourriture à d'autres co-détenus malades. Dans ce contexte-là, il prend la décision de demander le baptême en Christ. Et nous sommes le 15 mars 1960 dans la cellule 18 de la prison de Jihlava. Il demande à Hiéromoine, donc prêtre moine orthodoxe, Mina Dobzeu, de le baptiser. Et ça, je ne peux pas vous dire avec mes mots, je préfère lui donner la parole. C'est peut-être la scène la plus émouvante du journal de la Félicité, la scène du baptême. Les cours de catéchisme vont très vite. Le père Mina est indulgent et peu exigeant, et il est vrai que je m'avère connaître beaucoup de choses. Les trois prêtres, qui sont deux gréco-catholiques et le père Mina, tiennent un petit conciliabule et puis ils viennent me demander qu'est-ce que je désire, être catholique ou orthodoxe. Je réponds sans la moindre hésitation, orthodoxe. Bon, très bien. C'est donc le moine qui va me baptiser. Mais les deux prêtres gréco-catholiques assisteront au baptême. Je réciterai le credo devant eux, le credo orthodoxe. La catéchèse a pris fin. Le baptême fixé au 15 a lieu comme prévu. Le père Mina choisit le moment qui lui semble le plus opportun, le retour de la promenade, quand les matons sont les plus occupés, quand l'agitation est à son comble. Nous devons opérer vite et agir clandestinement au vu et au su de tous. Deux détenus complices se postent à la hauteur du guichet pour l'obscurer. À n'importe quel moment, un gardien pourrait surgir et vouloir y jeter un coup d'œil, mais à cette heure où les prisonniers sont sortis les uns après les autres ou rentrés de promenade, c'est peu probable. À toute vitesse, mais avec un savoir-faire de prêtre que la rapidité n'empêche pas d'articuler distinctement, le père Mina prononce les paroles rituelles, me marque du signe de la croix, répond sur ma tête et sur mes épaules tout le contenu de la chope, en réalité une sorte de verseuse à l'anse cassée, et me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qu'il est de me confesser, je le fais sommairement. Nous sommes maintenant happés par le rythme intense de la cellule 18. Je me mets sur le lit du prêtre et là je récite le credo orthodoxe comme nous en étions convenus. Je renouvelle la promesse de ne pas oublier que j'ai été baptisé quand même sous le signe de l'écuménisme, puisqu'il y avait deux prêtres catholiques comme témoins. C'est fini. Le baptême dans les circonstances où nous trouvons est parfaitement valable, même sans immersion et sans Sainte-Crème. Si j'arrive à m'en sortir, il faudrait quand même que j'aille voir un prêtre dont le père Mina m'a donné le nom pour le sacrement de l'onction. Voyez-vous, la conversion de Steinhardt est très différente de celle d'un saint Paul ou d'un saint Augustin, de Claudel ou de Verlaine plus proche. C'est un long cheminement illuminé quand même par la souffrance. Il a reçu le Christ, je dirais, dans une cellule du goulag roumain et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est aussi un début de chemin. Il va continuer son combat contre d'innombrables dilemmes, des doutes, des frissons. En prison, je devrais dire aussi qu'il a eu un comportement exemplaire, il n'a fait aucune concession d'étape, aucune. Ainsi, c'est amusant, mais ça en dit long sur son caractère, il préfère nettoyer les toilettes plutôt que de participer aux cours de marxisme-léninisme. En 1964, il y a une amnistie générale, Dieu merci, des détenus politiques. Alors pourquoi tout d'un coup, après quelques années de prison, on les amnistie tous? Il faut rendre hommage à la France ici, quand même. Il faut dire cela, et c'est aussi mon devoir de le dire. Cette amnistie a lieu parce que la France, d'autres pays occidentaux, mais la France en premier, a posé comme condition au rétablissement des relations diplomatiques avec la Roumanie l'amnistie des prisonniers politiques. Steinhardt en faisait partie. Alors, il va sortir de prison, d'une prison plus petite, il va trouver une prison plus grande, et il va retrouver surtout son père, qui a tenu promesse et qui l'a attendu. Voilà comment. Pardonnez-moi, j'ai mis des signes, mais ça ne sert à rien parce que je ne suis pas capable de les retrouver. 167, ben si. Papa, je le retrouve dans la rue, près de la maison. Évidemment, il n'y avait pas Internet, je ne peux pas le prévenir. Bon, voilà. Il marche soutenu par un cousin qui est venu lui faire un petit tour et l'amener chez le coiffeur. Il est tout petit, incroyablement petit, très voûté, et il marche à tout petits pas, mais sans crainte aucune, et ses yeux sont vifs. je glisse mon bras sous son bras droit sans qu'il s'en aperçoive. Je suis par derrière lui et quand il tourne la tête, je lui demande de ne pas pleurer. Pleurer ? Dit-il. Mais tu me prends pour un idiot. Dis donc, t'as mangé quelque chose aujourd'hui ? Une figure, hein. Eh ben, parler de manger, il meurt presque de faim. Évidemment, il sort de prison, mais que métier, personne n'embauche des anciens prisonniers politiques. Et c'est l'époque où il venait souvent à la maison pour manger, pour se chauffer, pour échanger un mot. Et maintenant, puisque je suis là, je peux faire cette confession. Papa était un des noms qu'il n'avait pas donné. C'est pour ça que je vous parlais d'un devoir de restitution. Il était en état de permanent éveil, tantôt exubérant, tantôt taciturne. Voilà ce que mon père, vous n'allez pas trouver dans le livre, disait sur lui. Tu sais, il te faisait croire que ce que tu disais dans une conversation, que de ce que tu disais allait dépendre tout le sort de l'humanité. Arrive les années 1970, une période de relative détente. Il réussit à publier un tout petit peu, beaucoup de critiques littéraires, où il trouve des sens chrétiens chez Proust, chez Dali, chez Beckett. C'est intéressant. Évidemment, la police, la censure ne comprend pas grand-chose. Il traduit aussi beaucoup de littérature anglaise et puis il se met à rédiger en cachette le journal de la félicité. Oh, destination de quelques amis. Bon, le livre a eu toute une aventure. Il a été confisqué une fois par la police politique. Il a réussi à le réécrire de mémoire. C'est une longue histoire. Dire un mot sur ce livre, à mon sens, il est arrangé entre les souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski et l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Le thème, évidemment, est celui de la liberté. Il y a trois niveaux de lecture de ce livre. Le premier se lit comme un roman policier, l'arrestation, le procès, les tortures. Bon. Le deuxième, c'est la description de l'univers dantesque du goulag roumain. Et puis, il y a le troisième niveau qui devrait être le vôtre, qui est le plus important, c'est celui de la découverte du Christ. Il est évidemment en permanence surveillé par la Securitate et les temps sont un tout petit peu moins durs. Ceausescu, c'est une grande vedette internationale. Bon, on fait des concessions de part et d'autre. Ils ne s'avisent pas à re-arrêter, à refaire des arrestations massives, mais surtout, il devient une légende vivante. Je disais que les Roumains ont un humour un peu particulier, mais à Bucarest, bon, j'étais... À l'époque, j'avais 14-15 ans, où il venait à la maison. Tout le monde connaît tout le monde. Donc tout le monde, c'est le juif qui n'a pas trahi, c'est celui, j'entendais ces phrases, c'est celui qui n'a pas été Judas, c'est celui qui n'a pas donné, c'est celui qui a tenu, c'est bon. C'est celui qui s'est fait baptiser dans le goulag. Bon, c'est quand même une légende vivante. Il commence bon, un peu embêté par tout cela, son père quittait ce monde, il commence à chercher un monastère parce qu'il veut entrer dans les ordres, il veut devenir moine. C'est pas facile. Alors pourquoi c'est pas facile? Parce que le client n'est pas facile. Et bon nombre de monastères, il dit oui, mais bon, on va être surveillé, la police va être là-bas. Bon, écoutez, non, peut-être pas tout de suite, peut-être pas. Donc il a 10 ans, à peu près, un peu moins, 8-9 ans, pour trouver enfin un monastère. Donc on a vu sa rencontre avec le diable au port du goulag, on a vu sa rencontre avec le Christ très rapidement dans le goulag, on arrive à sa troisième étape, son troisième tournant dans la vie, sa rencontre avec la grâce. Il trouve enfin un monastère, ça s'invente pas à Rochia, vous ne savez pas où c'est mademoiselle, c'est au fin fond de la Roumanie, dans le nord, dans les montagnes du nord, près de la frontière ukrainienne aujourd'hui. Pour y arriver, on ne peut pas y arriver comme ça, parce qu'il faut laisser la voiture traverser une forêt, voilà, c'était bon, un endroit isolé, et là, il devient moine, lors d'une célébration nocturne, porte fermée. Vous allez me dire, pourquoi porte fermée, et pourquoi en secret? Eh bien, parce que la loi obligeait les monastères et les pères abbés, les higoumènes, de déclarer les candidats, pour que la police sache exactement qui veut devenir moine, pourquoi, bon. Très bien. Évidemment, le père Abbé a très bien compris s'il fait ça avec Stein. Alors, c'est la fin du monastère. Donc, il ne dit rien. Il prend sur lui de ne pas respecter la loi. Et il est donc... il devient moine. Le père Archimondite, il faut dire son nom qui a fait ça, c'est le père Séraphin Mann. Et Steinhardt lui demande, deux jours après être rentré dans les ordres, lui demande la permission de continuer à écrire. Alors le père Séraphin lui dit avec un sourire immense, « Non, je ne te donne pas la permission d'écrire. Hein. Non, non, je te donne l'obédience et l'obligation de continuer à écrire, et même beaucoup. Et non seulement que je te demande d'écrire, mais aussi de ne pas quitter complètement le monde. Tu iras de temps en temps à Bucarest rencontrer tes amis littéraires. » Et il lui dit pourquoi. « Je veux que tu sois comme Alyosha Karamazov. Je ne veux pas que tu sois tenté par le danger de l'angélisme. » Et donc, il va continuer à écrire. Entre autres, ces homélies qui n'ont pas été publiées, bien entendu, mais bon, qu'il a eu la bonne idée de les écrire quand même. Et puis, il va à Bucarest une fois, deux fois par an, pas plus, mais à Rohia, il suit un régime très sévère, un jeûne sévère, il suit tous les offices de nuit, il écrira à mon père, tu sais, ici, je suis un régime de samouraï. Il donne aussi des cours aux moines, des cours d'anglais, de théologie, c'est incroyable ça, c'est eux qui me... Enfin, j'ai vu par hasard, j'ai rencontré quelques-uns de ces jeunes disciples à l'époque qui ont maintenant mon âge. Il était très, 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 très dur. Hein. Enfin, lui était très exigeant. Il demandait 30 verbes irréguliers par cœur après chaque leçon et il ne fallait pas s'aviser de ne pas les apprendre. Il était dehors les gens qui n'avaient pas appris les 30 verbes irréguliers. Mais les moines ont appris l'anglais. Et puis il met de l'ordre dans la bibliothèque, surtout ça, une bibliothèque du monastère, 30 000 volumes, il met de l'ordre, on lui a donné ça comme obéissance. Vous savez, à Rohia, les autres moines étaient tous, pour la plupart, d'origine paysanne, à l'antipode du brillant intellectuel citadin, mais je dois dire qu'ils l'ont tous reçu les bras ouverts. Il a cru qu'en devenant moine, il allait se débarrasser de la securitate. Il s'est lourdement trompé. Surtout quand il prêchait, apparaissaient des tubes de plus en plus bizarres, parce que plus il prêchait, et plus tout le village, plus les villages d'à côté apparaissaient, et puis immanquablement la police politique, la securitate. Puis il y avait des étudiants de Bucarest qui prenaient le train toute une nuit pour arriver jusqu'à Rohia, parce que pour écouter le père Steinhardt. Je dois dire, parce que je ne dois pas oublier, j'ai noté ici, de 1947 à 1989, quand le communisme s'est écroulé, son dossier à la Securitate était de 11 volumes. Il avait usé 300 informateurs et 70 enquêteurs. Le dossier Steinhardt est ça, à la Securitate. Alors, comment vivait-il le monachisme quand même un tout petit peu, puisque je vous ai dit, c'est sa rencontre avec la grâce. C'est une véritable ascèse, et voilà, je vais citer un prêtre que j'ai rencontré ici et qui était jeune moine là-bas, et qui disait qu'il entendait prier. Il disait, quand il priait, il le faisait sur un ton d'ultimatum. Quand il disait « Seigneur, miséricorde », c'était en fait « Seigneur ». Ne t'avise pas de ne pas me faire miséricorde. Purement et simplement, il parlait avec Dieu quand il priait. Il restait agenouillé des heures dans l'autel et il criait sa prière comme un personnage de l'Ancien Testament. Il avait une sorte de désespoir comme je n'ai jamais rencontré, disait le père Vassilé Philippe. Les frères plus jeunes disaient aussi d'ailleurs, si la prière du père Nicolas n'est pas entendue, on se demande bien qui Dieu entend. Et puis, il prêche. Ses homélies sont des vrais essais littéraires. Monsieur, il a le livre que j'ai eu. Ça a été l'honneur de ma vie de le traduire en français. Mais ses homélies, c'est vrai, c'est des essais littéraires. Mais en même temps, ça ne sort pas des canons. Il invoque Saint Ignace de Loyola, Saint Augustin, Saint Grégoire Palama, mais aussi Claudel, Simone Veil, Edith Stein, Papini, Henri de Lubac en deux phrases. Je vais vous citer deux ou trois phrases types de ces homélies qui interpellent vraiment. Voilà ce qu'il dit. Le Christ est venu nous scandaliser, nous troubler, nous sortir de l'état de torpeur et de facilité du quotidien, nous réveiller, nous arracher à des préoccupations inutiles, comme par exemple savoir si la terre tourne autour du soleil ou au contraire. Le Christ est venu pour nous obliger à répondre à de vraies questions. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Comment vivre parmi nos semblables? Comment obtenir le salut? Il disait aussi, les gens ne savent pas ce que c'est le christianisme. Ils prennent la Bible pour un livre de morale et Jésus pour un gentil pasteur moraliste et le christianisme pour un enseignement d'où l'on tire des programmes scolaires de laïcité, de stupidité et de varicianisme. 1989, janvier, le monastère de Rohi est mis à sac et la cellule du père Nikolai fouillée une fois de plus. Mais avec une précaution salutaire, Steinhardt avait caché quelques jours auparavant ses manuscrits chez d'autres frères. C'est sa dernière victoire contre le diable peu avant sa mort. Il est de plus en plus maigre maintenant, mais il est, le disent les autres moines, comme auréolé. Le 20 mars 1989, le père Mina Dobzeu, celui qu'il avait baptisé dans le goulag, vient lui rendre visite, lui aussi, très âgé, vient lui rendre visite à sa monastère à Rohia. Passe la journée ensemble dans la cellule du père Nikolai. Ont-ils parlé des souvenirs du goulag? Est-ce une confession? Nul ne le sait si ce n'est pas le Christ. Mais 8 jours plus tard, il part pour Bucarest, mais il a un malaise. Le lendemain, le 29 mars, il est dans la ville, à Baia Mare, chez un ami. Il va un tout petit peu mieux l'après-midi, il demande à écouter Mozart. Mais le lendemain, le 30, il est mal, il est admis à l'hôpital de Baia Mare. Il demande à un frère qui le veille de lui lire les prières pour les agonisants. Lorsque celui-ci achève, il lui dit « Maintenant, ferme le livre ». Ce sont ses dernières paroles. En conclusion, je veux vous dire ceci. Je ne sais pas si Nikolai Steinhardt a tenu sa promesse, un peu orgueilleuse, un peu auto-ironique, mais voici ce qu'il disait à un ami, peu de temps avant sa mort. « Tu sais bien que j'ai eu de lourds et de nombreux péchés, mais au jugement, moi je vais me défendre avec audace devant le Christ. Je vais lutter pour mon salut. Je vais parler au Seigneur directement comme un juif à un juif. » Ainsi, après un long voyage, jusqu'au bout de la nuit, Nikolai Steinhardt a gagné son combat contre le diable. Ça, j'en suis certain. Le chevalier de l'esprit s'est fait un chevalier du Christ. Et ainsi s'achève ce résumé maladroit d'un destin exceptionnel. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je réponds volontairement. Bon, vous pouvez arrêter ça. Voilà. Et sinon,
oui.